Ailleurs que sur la Terre, la probabilité de trouver de la vie est extrêmement réduite.
L'association lausérienne pour l'étude et la protection de l'environnement.
Ouvrez grand les yeux, vous allez découvrir l'effet sans doute le plus immédiat des changements climatiques.
48 FM vous présente les chroniques de l'Allais.
Une telle profusion et variété de vie que l'on appelle aujourd'hui la biodiversité.
Muriel Duguay, les chroniques de l'Allais.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle chronique de l'Alep. Je suis avec Muriel Duguay. Bonjour Muriel.
Bonjour Corentin.
Tu es venu aujourd'hui avec Michel Quillot. Bonjour Michel.
Bonjour.
Ils ont été capricieux, j'ai bien l'impression, cette année. Nous allons parler des champignons, c'est bien ça?
C'est ça. Aujourd'hui, on va parler de mycologie. Alors la mycologie, c'est la science des champignons. On va voir que c'est assez riche. Donc on a invité Michel, spécialiste de la question.
Je ne suis pas mycologue, mais on va dire on va parler de l'écologie des champignons. Et ce que ça représente dans le monde du vivant, et je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire, on n'a pas idée de l'importance en fait de ce monde-là. Hein. On estime à peu près à 8,7 millions d'espèces dans la biodiversité. On a 100 000 champignons de recensés, de connus. Hein. C'est 3000 en France, le D'accord. champignon, et une centaine de comestibles.
D'accord. Alors, Corentin, est-ce que tu sais ce que c'est un champignon ?
Un champignon, ça pousse, ça serait un végétal ?
Alors, Michel ?
Non. Non. Non, depuis 1932, un certain Whitaker, un Américain, a dit que ça ne pouvait pas être compatible avec un végétal. Les végétaux sont caractérisés par des racines, des tiges, des feuilles, des fleurs, des fruits, des graines. Le champignon, c'est tout autre.
Est-ce que ce serait un animal alors, peut-être comme un coraux?
Il y a des fois des petites choses qui ressemblent à... Enfin, je vais compliquer un peu, mais l'ARN, c'est l'acide ribonucléique hein, qu'il y a à l'intérieur des cellules, qui en fait transforme le message génétique en protéines. Il est très proche en fait des humains.
D'accord.
C'est bizarre. Mmh. On pourrait dire tante Amanite ou... Tonton Bolet, mais c'est très proche.
Plutôt girole ou...
Voilà, c'est assez complexe. Hein. De toute façon, les champignons, on va voir après, peut-être, il y a beaucoup de choses.
Donc, ni animal, ni végétal.
Alors, ni animal, ni végétal. Ah oui, voilà, justement, Whitaker a dit il faut faire un troisième règne, c'est-à-dire le règne des champignons.
D'accord, donc c'est un règne à eux seuls, en fait.
Oui.
Enfin, à eux seuls, ils sont quand même 100 000, vous le disiez, mais...
Oui, 100 000. D'ailleurs, les chercheurs ne sont encore pas d'accord sur la classification qu'il y a à l'intérieur de ce règne. Hein. Ils sont toujours en train d'en découvrir et de voir un peu comment ça fonctionne. Mais effectivement, on a une richesse très importante avec... ça va du cèpe à de simples levures, à des moisissures. Hein. C'est tout ça. Et donc, c'est très vaste.
D'accord. Donc, comment est-ce qu'il...
Alors, si on veut parler de champignons proprement dit, enfin, ce qui caractérise les végétaux, c'est déjà d'avoir de la chlorophylle et de faire la photosynthèse. On dit que les végétaux sont capables de produire leur propre matière organique, donc ils sont autotrophes, c'est-à-dire qu'ils s'alimentent par eux-mêmes, ils produisent leur matière organique. Mmh. Les champignons, non. Ils ne peuvent pas. C'est-à-dire qu'ils sont hétérotrophes, ils dépendent de la production de matière organique des autres pour pouvoir effectivement fabriquer leur propre corps qu'on appelle du mycélium. En fait, ce sont des amas de cellules. Hein. On le classe dans l'embranchement des thallophytes. C'est compliqué, mais c'est un amas de cellules indifférenciées où on n'a ni tiges, ni racines, ni feuilles, mais des cellules qui ont toutes à peu près la même capacité de développement et de vie. Donc, ça donne, pour simplifier, si vous avez déjà vu de la moisissure sur du pain, eh bien, c'est un ensemble de filaments hein, qui se propage librement, on va dire, tant qu'il a de la ressource à disposition. Il a besoin de trouver du carbone, de la matière organique à consommer, et il ne la produit pas.
Donc là, j'anticipe peut-être un peu, mais c'est notamment avec les champignons qu'on retrouve beaucoup de symbiose.
Tout à fait, tout à fait. Alors là, On va dire que les champignons, ils peuvent tirer leurs ressources alimentaires de différentes façons. Une, par exemple, des façons, c'est le fait d'être saprophyte. Alors, je m'excuse, hein, j'emploie des mots compliqués, mais c'est le fait de faire de la décomposition de la matière organique morte. Donc, ils sont indispensables dans tout le cycle de la matière organique, hein, et dans la production, finalement, des plantes. Sans eux, sans les champignons, il ne peut pas y avoir de décomposition complète, hein, et donc de minéraux disponibles pour les végétaux. Donc on va le retrouver abondamment en forêt, bien entendu, puisqu'on va avoir des accumulations de bois mort. Hein, et dans le bois mort, vous avez de la cellulose, vous avez de la lignine qui sont riches en carbone. Et effectivement, donc, ce sont des substrats qui vont nourrir en fait le champignon. Voilà. Et les champignons ont des enzymes extrêmement puissantes, capables de dissoudre en fait cette matière organique et de la réduire sous des formes qui sont assimilables par leur propre thalle mycélien.
D'accord, donc on a parlé de symbiose, on peut aussi parler de parasitisme ?
Alors oui, effectivement, alors, ça c'est la première chose, c'était saprophyte, c'est-à-dire qui décompose. Hein. La deuxième solution, c'est effectivement donc le parasitisme. On trouve beaucoup de maladies cryptogamiques. Hein. Ça vient de cryptogame, cryptos caché, gamme mariage, mariage caché. Les champignons se reproduisent avec des spores, non pas des fleurs, des fruits, des graines comme les plantes, mais avec des spores. Et donc cette sporulation, hein, c'est le mode de reproduction. Et on a effectivement une capacité à se disperser dans le milieu qui est extrême. Là, dans ce local où nous sommes en train d'enregistrer, nous respirons des spores. On en a en quantité, en suspension dans l'air, surtout en période d'automne.
Et ça fait partie aussi de l'équilibre et il nous aide aussi parfois à digérer. Enfin,
les champignons peuvent intervenir dans des tas de processus, on va dire, symbiotiques. Hein, pas tellement chez l'homme, hein, mais c'est surtout au niveau donc des mécanismes du vivant, surtout avec végétal. C'est-à-dire que souvent, les champignons émettent des filaments qui vont entourer les jeunes radicelles, les jeunes racines, hein, des plantes, et entretenir des échanges très étroits avec les plantes.
D'accord.
Et ce sont des symbioses. Ensemble, biose, vie ensemble. Et donc, on a des échanges qui vont être importants entre l'arbre ou la plante, hein, et qui va, elle, faire de la photosynthèse, produire de la matière organique, donc des sucres, des acides aminés, hein, et elle va l'utiliser pour elle-même, mais aussi en donner aux champignons, qui va pouvoir se développer, et également, donc, le champignon, lui, en retour, par sa capacité à exploiter, en fait, le volume du sol, hein, puisqu'il se développe en profondeur sur 20-30 cm de litière organique, eh bien, il va pouvoir retirer en fait des minéraux, du phosphore, de l'azote, du cuivre, du fer, du zinc, des éléments qui sont indispensables à la plante, l'utiliser pour lui-même bien sûr, mais aussi le donner à la plante. Et donc, les plantes qui vivent en symbiose avec des champignons se portent mieux, se développent mieux, produisent plus. Et les champignons, dans le milieu forestier, sont vraiment prépondérants et importants pour le fonctionnement de tout l'écosystème forestier.
D'accord. Alors si on comprend bien, la partie souterraine du champignon, donc qu'on appelle le mycélium, est dans la terre avec l'arbre et le végétal toute l'année. Il est présent toute l'année. Alors, Johanna avait une question par rapport à la périodicité à laquelle on trouve les champignons.
On l'écoute tout de suite.
Bonjour, je m'appelle Johanna, j'ai 27 ans. Et je me pose la question de pourquoi les champignons poussent-ils à l'automne ?
Alors, effectivement, les champignons poussent à l'automne. Hein, tout simplement parce que on retrouve les conditions écologiques nécessaires. Le champignon, c'est un cryptogame, c'est un végétal inférieur. Ils sont originaires d'ailleurs des algues. Hein, et ils ont encore besoin, pour la période de reproduction, d'eau. Or, ce que nous ramassons, nous, dans la forêt, c'est-à-dire le cèpe, la girole, la trompette de la mort, le lactaire délicieux, etc., enfin, ce que nous ramassons et que nous considérons être le champignon, c'est en fait la forme de reproduction du champignon. Hein, c'est ce qu'on appelle le carpophore. Bon, j'emploie un mot compliqué, mais le carpophore, c'est effectivement ce qui va produire les spores et permettre donc de disperser l'espèce dans tout le milieu.
Voilà, donc pour simplifier, pour avoir une image, on peut dire que le carpophore, pour le cèpe par exemple, ça réunit le pied et le chapeau.
Tout à fait, c'est l'ensemble.
Ce qui sort
de
terre.
Ils vont pousser effectivement au printemps ou à l'automne, parce que ce sont des périodes qui sont humides, hein, où on a des pluviométries importantes, et on a aussi un degré, une température qui est idéale. Et surtout pour les champignons qui sont en symbiose avec les arbres, les arbres font leur croissance, ils ont une croissance de printemps et une croissance d'automne. Donc le fait d'avoir une production importante de biomasse à ce moment-là, c'est-à-dire de sucre, hein, de feuilles, de tiges, de racines, etc., à ce moment-là, eh bien effectivement, ils peuvent nourrir le champignon, qui va lui pouvoir fabriquer à ce moment-là un carpophore, c'est-à-dire la forme de reproduction, c'est ce que nous récoltons.
D'accord. Et alors, justement, quel champignon on peut récolter en forêt ou dans les prés?
On a une centaine d'espèces de comestibles, hein, bien sûr. Donc, ça va de, on va dire, du lactaire délicieux au grisé, en passant par l'amanite des Césars.
Et des amanites qui se mangent?
Ah oui, des amanites, hein, mais à ne pas confondre, bien entendu, puisqu'on peut avoir des problèmes très graves. Il faut savoir que beaucoup de champignons sont toxiques. Beaucoup. Ils possèdent donc des alcaloïdes extrêmement puissants qui peuvent être mortels. Hein, l'amanite phalloïde, par exemple, produit des substances qui vont attaquer le foie, le dégrader de façon presque irréversible, sans qu'on puisse effectivement lutter contre cette destruction du foie.
Voilà, donc il ne faut pas s'amuser à manger du coup n'importe quoi quand on ramasse un champignon. Quelle serait, là c'est pour la petite parenthèse pour les auditeurs, quelle serait la meilleure méthode à adopter? Déjà, se renseigner forcément sur le champignon qu'on a récolté. Mais si jamais on s'aperçoit que après digestion ou etc, c'est médecin directement.
Non,
après digestion, c'est souvent trop tard.
Oui.
Non, la première des choses, c'est déjà je ramasse les champignons que je connais. Voilà, ça c'est la première chose. Si j'ai un doute sur un champignon, je le porte au pharmacien. Pharmaciens, normalement, ils ont eu des formations sur les champignons et la toxicologie autour des champignons.
Je savais pas ça.
Et donc, le pharmacien va pouvoir écarter et dire « Attention, celui-là, je doute, donc on le met de côté. » Donc, c'est quelque chose qui va permettre d'éliminer pas mal de risques.
Ouais. D'accord.
D'accord. Et donc, par rapport à l'écologie de ces champignons, on a vu qu'ils poussaient en symbiose. Est-ce que, donc, si je veux trouver des cèpes, est-ce que je peux cibler les endroits où je dois aller?
Ah, oui. Il faudrait parler peut-être de ce qu'on appelle les boletières. Vous savez, c'est les coins secrets qu'on ne dit pas, qu'on ne raconte pas. Hein, c'est mon coin à moi. Hein. Je ne vais pas le dire au voisin parce que sinon il va aller ramasser. Hein. Voilà.
Mince. Donc, j'aurais essayé.
J'ai bien tenté, Muriel, mais pas aujourd'hui.
Les boletières, en fait, c'est un site où on a effectivement les conditions écologiques nécessaires pour le développement du mycélium qui va couvrir 100, 200, 300, 400 mètres carrés, 500 mètres carrés. Parfois, des hectares, hein, le même mycélium peut couvrir des hectares, et on a même eu connaissance aux États-Unis d'un mycélium unique qui couvrait 600 hectares de surface. Donc ce sont des sites qui sont favorables au développement du champignon, et quand les conditions écologiques sont réunies, c'est-à-dire température, humidité, et on a effectivement la possibilité d'avoir la reproduction et donc des carpophores à cet endroit-là. Et donc, ce que nous ramassons, le fameux cèpe en question.
D'accord. Et alors, la trufficulture se développe sur les zones cosnardes. Pourquoi?
Là, on retombe à nouveau sur le phénomène de symbiose, de vie avec. C'est-à-dire qu'on va trouver, surtout sur des arbres comme le chêne, hein, des noisetiers, hein, on va trouver des associations, des symbioses entre l'arbre et le champignon. Et sur le cosse et sur les franges cosses, les conditions sont favorables en fait à la production de truffes.
D'accord.
Hein, donc ce tuber melanosporum, hein, de son nom wow. scientifique. Et on va dire en association avec le chêne ou avec un noisetier. Et on peut acheter d'ailleurs, et c'est le cas où on retombe dans la trufficulture, hein, on peut acheter des chênes ou des noisetiers truffiers, c'est-à-dire qu'ils sont déjà inoculés, mmh. c'est-à-dire qu'on apporte en même temps que les racines de l'arbre et le jeune plant, on apporte des moisissures, des champignons, en fait, et en particulier ce tuber melanosporum.
D'accord.
Et au bout de 5 ans, dans certains cas, quand les conditions sont très favorables, eh bien, on peut avoir déjà une production de truffes.
Okay.
Surtout avec les noisetiers, la production sous noisetier est beaucoup plus rapide.
D'accord.
Alors, il se développe effectivement une culture parce que, effectivement, on a des rapports qui peuvent être intéressants quand on sait que, au détail, on peut vendre entre 650 et 1000 euros le kilo de truffes. Ça attise quelques convoitises et quelques envies de cultiver, surtout si on a des terres, on va dire, ingrates, pentues, avec des chênes, c'est possible.
Ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup, Michel, c'est passionnant. En plus, tu nous as donné une bonne liste de mots pour briller en société. Donc, je vous en rappelle quelques-uns, hein, cryptogamique, thal mycélien, carpophore, mycélium, hétérotrophe, saprophyte.
Après, il faut arriver à les placer, quoi.
Voilà, bah, c'est votre défi pour la semaine prochaine. Ok, Corentin ?
Très bien, je retiens. Merci beaucoup, Muriel Duguay, d'être venue avec nous, avec ton invité Michel Quillot. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.
À bientôt.
Merci, au revoir.